Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, votre émission pour commenter l'actualité sur Africa Radio ce vendredi. Dans JDA, c'est la libre antenne bien sûr, c'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Pour participer, le numéro du standard, que vous soyez en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou partout dans le monde, c'est le 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également envoyer des messages sur WhatsApp. Je redonnerai le numéro dans quelques instants. Je peux d'ores et déjà vous dire que dans cette libre antenne, nous reviendrons sur les soupçons de malversation au Sénégal dans la gestion pétrolière, du poste convoité de vice-président à l'Assemblée parlementaire francophone. Guillaume Soro doit-il céder sa place? Nous évoquerons aussi la privatisation en France des aéroports. Avant de vous écouter en direct, je vous propose d'écouter quelques messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Au Bénin, on est en train de voir une dérive autoritaire. Parce que là, ce que parlait tout à l'heure en train de faire contre la misère qu'ils ont en train de faire vivre au président Boni Yaïf, franchement, ce n'est plus sérieux. Patrice Talon devait remercier et respecter Boni Yaïf parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui qu'il ait cette chance d'être président dans ce pays, le Bénin. Parce qu'on ne va pas tous oublier facilement la tentative d'empoisonnement contre le président Boni Yaïf à l'époque. Il est venu ici en France et Yaïf Boni l'a en quelque sorte gracié, lui a dit non, vous pouvez rentrer. Voilà, donc il n'y avait que son bon cœur et le respect des règles démocratiques. Il s'est dit, tout le monde doit jouer au jeu politique et tenter sa chance. Donc il lui a donné cette chance de rentrer au pays, au Bénin, et Patrice Talon s'est positionné et aujourd'hui il est président. Mais voilà, il oublie tout. Il balaye tout comme ça d'une main de revers. C'est comme si Boni Yaïf était son ennemi ou c'était l'inverse, c'est Boni Yaïf qui allait le tuer. Non. Il y a eu des élections législatives organisées qui n'a eu aucune raison d'être dans la mesure où les autres sont exclus. Alors, c'est normal qu'il parle pour le bien de tout le monde. C'est pour l'intérêt général qu'il a contesté et qu'il a dit tout ce qu'il a dit là. Là, il est encerclé, il est assigné à domicile. C'est comme s'il a fait je ne sais pas quel truc de bizarre où il a tué les gens au Bénin. Non, c'est, franchement, même sa famille n'a pas de rendre visite.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis de Judéa, le peuple africain et tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Madame Hartmann, il y a toujours la guerre, il y a toujours des viols de femmes, il y a toujours le massacre des Congolais à Ituri, mais nous demandons vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a toujours des gens de Kabila qui sont là? Parce que l'occupation reste toujours au Congo. C'est pour cela qu'il y a toujours des massacres et des viols à l'est de la République démocratique du Congo.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, j'ai dit et je répète, le slogan de Trump, America First, c'est la version moderne de Deutschland über alles. Deutschland über alles. C'était le slogan de Hitler et qui voulait dire l'Allemagne au-dessus de tout. Alors, c'est ce slogan que Trump a traduit en mettant first à la place de über alles. Donc, vous identifiez bien qui est Trump. Il est en train de faire la guerre contre l'Iran. Mais après l'Iran, ça sera qui? Il est en guerre contre la Chine. Et il met sous pression les États latino-américains et le Canada. Si après ça, nous n'avons pas compris, eh bien, je ne sais pas où on va. Bonne journée à tous.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Comme promis, le numéro WhatsApp pour nous envoyer des messages, demander à être rappelé, c'est le 33 7 66 19 77 69. 33 7 66 19 77 69. On commence sans plus tarder cette libre antenne. Au Sénégal, le procureur a ouvert une enquête après des accusations de malversation pétrolière par nos partenaires et confrères de la BBC, une semaine après la diffusion du documentaire de la BBC, enquête intitulée « Un scandale à 10 milliards ». Le ministre de la Justice sénégalais a finalement saisi ce lundi le procureur de la République. Il est chargé d'enquêter sur l'ensemble des faits allégués. Nous en parlons tout de suite avec Cheikh. Cheikh, bonjour. Allô. Bonjour Cheikh Sall.
Allô, bonjour Madame Hartmann.
Bonjour Cheikh Sall.
Merci pour l'invitation.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez vous exprimer sur ce sujet, cette affaire, j'ai envie de dire, au Sénégal.
Oui, naturellement, parce que vous savez, c'est une affaire aujourd'hui qui éclate au grand jour, avec quand même le reportage de vos confrères de la BBC. Donc cette affaire-là que nous connaissions, nous, quand même, qu'un certain nombre de Sénégalais connaissaient déjà, suite aux différentes entourloupes dans ce dossier, BBC, quand même, nous a permis de faire la lumière au grand jour. Et je pense que ce sera au plus grand bonheur du peuple sénégalais qui pourra vraiment récupérer ses ressources minérales qui ne doivent pas passer par perte de profits. Je voudrais juste quand même, pour ceux qui nous écoutent, faire un bref retour en arrière pour dire c'est quoi l'affaire Petrodim. Alors l'affaire Petrodim, c'est une licence, deux licences même de prospection de pétrole que le président de la République, par le biais d'un décret, a signé pour les adjuger à son petit frère de même père et de même mère.
Pas directement, c'était plutôt pour donner aux entreprises de Franck Timis. Et on précise, Cheikh, que les décrets avaient été d'abord rédigés par le précédent président Abdoulaye Wade.
Alors là, je voudrais aussi apporter des éclaircissements. Les décrets qui ont été signés par le président Abdoulaye Wade et le ministre
d'État, rédigés plutôt, et signés par ça.
Les décrets qui ont été rédigés et même signés, parce qu'il y a eu des décrets qui ont été signés par le président sortant à l'époque, avant de perdre le pouvoir, il a signé le décret effectivement pour adjuger à Petrocrime la licence de prospection de pétrole. Et le ministre de l'énergie de l'époque aussi avait signé. Mais sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu des élections et Abdoulaye Wade, entre-temps, a perdu le pouvoir. Donc ces décrets-là étaient caducs. Parce que ces décrets-là n'ont ni été publiés au journal officiel, ni n'ont fait l'objet de numérotation. Donc, c'était nul et non avenu.
Donc vous dites, alors, Macky Sall n'était pas obligé de les signer. C'est la libre antenne, Cheikh Sall. On va prendre d'autres auditeurs après. Pour conclure, finalement, vous êtes plutôt optimiste sur l'ouverture d'une enquête. Vous dites que ça va faire la lumière, c'est bien ça?
Non, pas du tout, parce que c'est une parodie d'appel, d'appel à témoins que le procureur nous a fait dans une affaire aussi gravissime. Et juste là, si vous permettez, aujourd'hui, tous les éléments connus du dossier sont été consignés à travers un rapport de l'IGE. L'IGE qui est le corps le plus prestigieux, le corps de contrôle le plus prestigieux de l'État sénégalais, qui dépend exclusivement du président de la République. Et que dit ce rapport, entre autres? Que la demande de Petrotim ne comportait aucune des mentions prescrites par l'article 8 du décret 9805 du 6 octobre 1998 fixant les modalités d'application de la loi 9805 portant sur le
contrôle. Cheikh Sall, vous n'allez pas perdre les auditeurs.
Alors, pour terminer l'article, allez-y, que les gens puissent comprendre. Notamment sur les exigences des justifications additionnelles des capacités techniques et financières de la demanderesse.
Bon, je suis pas sûr que Cheikh Sall. On a bien compris, les auditeurs, on en a parlé, si vous rappelez bien d'ailleurs, la semaine dernière dans cette émission du journal des auditeurs, vous citez un rapport de l'IGE. L'IGE, d'ailleurs, qui est l'inspection générale d'État du Sénégal, Et en effet, hein, le ministère a mis l'accent hein, sur ce rapport quand il a annoncé qu'une enquête avait été ouverte. Dans le communiqué hein, du ministère de la Justice, hein, il dit hein, que apparemment ce rapport n'a pas été transmis au chef de l'État. Affaire à suivre. Donc merci beaucoup, Cheikh Sall, de nous avoir parlé de ce sujet. Et voilà, monsieur Cheikh Sall qui dit finalement, on n'entend pas grand-chose de cette enquête. Bonne journée à vous, Cheikh. On continue cette libre antenne avec Brice. Brice, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Brice. Alors, oui, on voulait parler d'un sujet très franco-français en France. Hein, le pouvoir a annoncé la privatisation d'ADP Aéroports de Paris. Il y a un site, une consultation qui a été lancée, je crois, pour s'exprimer sur cette privatisation. Et vous dites que le site ne fonctionne pas, c'est bien ça?
Oui. Alors, excusez-moi. Voilà. Je vous ai pas bien entendu. Voilà,
c'est, donc, il faisait un résumé de ce que vous vouliez dire pour les auditeurs voilà. qui ne sont pas au courant de ce qui se passe avec cette question d'aéroport de Paris. Les Français peuvent s'exprimer hein, sur une éventuelle privatisation et vous dites le site par lequel ils peuvent s'exprimer ne marche pas, c'est bien ça.
Ne marche pas. Alors bon, bah, on dira toujours que bah, ceux qui sont ceux qui décrivent un petit peu la situation. On va dire, ils sont, voilà, ce sont toujours les éternels gueulards du pays. Mais c'est vrai que quand ils prennent une initiative qui est presque une première, genre de laisser s'exprimer les citoyens, bah, c'est quand même assez déroutant de trouver que, bah, au bout du bout, on n'arrive pas à s'exprimer sur le sujet. Alors, j'ai lu quelques articles qui dénonçaient cela, et j'ai été moi-même sur le site, sur gov.fr, vous mettez, RIP, ADP, et quand on vous propose de signer ou de cocher l'engagement comme quoi vous êtes pour le projet de loi qui interdit la privatisation, et ben vous vous trouvez devant toutes les difficultés, ils n'acceptent pas le nom, après c'est la ville qui n'est pas acceptée. Bref, en gros, le gouvernement fait semblant de vouloir interroger le peuple, mais en réalité, il va l'empêcher de s'exprimer là-dessus. Bon. Donc c'est un projet qui risque de ne pas voir le jour. Et je m'exprime en tant que citoyen français parce que bon bah on est tous de la diaspora et il faut bien qu'on montre aussi aux Français qu'on s'intéresse au sujet national. Et malheureusement bon on est tous là toujours tout le temps à parler d'Afrique. Mais je pense que si on veut aider l'Afrique,
Vous êtes de plus en plus sur une radio panafricaine, mon cher Brice.
Ah non, bah,
on écoutait à Abidjan.
Je dis ça pour ceux qui peut-être seraient agacés de mes interventions très souvent franco-françaises. Alors je suis bien africain même si je mis comme pseudo Brice. Je suis malien d'origine et puis j'interviens beaucoup sur les sujets français parce que il faut aussi que les Français qui écoutent Africa numéro 1 comprennent qu'on s'intéresse aussi au pays. On n'est pas là juste pour gratter.
Et je vais même dire davantage, merci hein, mon cher Brice, et vos interventions sont toujours intéressantes. Je vais même dire davantage, hein, l'intérêt de cette émission c'est de pouvoir s'exprimer sur tout. Voilà, sur n'importe quel sujet, que ce soit Hong Kong par exemple, hein, le Brexit ou encore la privatisation d'aéroport de Paris. Merci Brice pour votre intervention. On continue cette libre antenne riche et variée. Dans un instant, on devrait parler hein, de Guillaume Soro qui peste hein, contre l'Assemblée parlementaire francophone. Avant cela, on va rapidement revenir sur l'interview, l'invité du jour de BBC. C'était Diarata Ndiaye qui lançait une application pour permettre aux femmes d'alerter en cas de violence conjugale. Ça a fait réagir Amadou qui voulait nous dire un petit truc. Bonjour Amadou.
Bonjour Stéphanie, bonjour Radio Africa, les auditeurs de Radio Africaine. Effectivement, j'interviens avec Cézanne Diaye, c'est une noble tâche ce qu'elle fait. Mais ce qu'il y a, le problème n'est pas tout simplement l'application des femmes battues et les hommes battus. Il y a des hommes qui sont battus. Je comprends parce que la femme, comment elle utilise les enfants, ouvre son droit, elle prend son désir comme la vérité. Or que c'est la femme qui a engendré l'homme. Est-ce qu'on prend le mariage c'est le même problème qui est venu au Sénégal, à la télévision, feuilleton. Quand tu as confiance à tes sentiments, est-ce qu'on prend, tu as confiance à toi-même, aimer la personne telle qu'il est, tu le laisses comme il est. Mais quand tu aimes une personne par condition, est-ce qu'on prend un amour inconditionnel, mais c'est pas de l'amour, le vrai amour, on ne le construit pas. Donc si les femmes, si c'est sur ce côté-là, il faut aussi les hommes battus, il faut se battre des deux côtés. Moi, je défends toutes les libertés, je défends la dignité humaine. Je peux même pas taper un animal.
C'est un rappel nécessaire. Mais Amadou, vous en conviendrez que statistiquement, il y a plus de femmes qui meurent sur les coups de leur mari que l'inverse.
Oui, Non, c'est pas ça.
C'est-à-dire, c'était juste pour conclure, mon cher Amadou.
Mais je me suis rendu compte, même en France, ça se passe. Effectivement, comment les deux couples qui sont dans un appartement, est-ce que la femme, elle se plaint à chaque fois? La plainte est victimisation, ou bien elle frappe l'homme en premier, et surtout si on dit que...
Comment c'est l'homme qui répond, on n'est pas dans le secret des couples, c'est toujours très délicat, Amadou, mais je pense que le message est passé, Amadou, hein. Vous voulez dire que voilà, il faut l'amour inconditionnel, on ne frappe pas, voilà, il n'y a pas de violence dans l'amour inconditionnel, c'est ce que j'ai cru comprendre, merci Amadou. On va parler rapidement, avant d'évoquer le cas Soro, du Bénin avec Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour Stéphane Hartmann. Bonjour.
Bienvenue dans le JDA, Philippe. Vous vous inquiétez hein, du silence de la CEDEAO et de l'Union africaine hein, concernant la situation au Bénin. Il y a des troubles actuellement dans le Nord avec de nombreux blessés et un ancien président en résidence surveillée de fait sans qu'aucune décision de justice n'ait été prononcée.
Voilà, et moi je ne sais pas, je voulais savoir combien de Béninois il faut tuer avec l'armée nationale qui doit protéger la sécurité du pays. Maintenant, cette armée elle fait face le civil pour la raison laquelle on ne comprend pas, juste à cause de l'élection législative seulement. Et il y a tout ça. Et maintenant, personne ne dit rien. CEDEAO est là. Ils attendent que la guerre commence. La communauté internationale aussi attend qu'il y a la guerre, là tout le monde vient faire leur hypocrisie. Pourquoi? Moi je voulais savoir pourquoi. Aujourd'hui, Yaïm Boni est bloqué chez lui. S'il a commis des crimes, il faut l'arrêter, il faut le juger, il ne faut pas le bloquer chez lui. Il n'a pas affaire à personne, personne ne doit pas aller chez lui. Alors que ce monsieur, moi je vois pourquoi, la plupart des présidents africains s'accrochent au pouvoir. Si ce monsieur avait fait comme les pays, comme le président de Burundi ou bien Bongo, on n'aurait pas arrivé là. Il pouvait s'accrocher au pouvoir. Mais il a donné ce pouvoir à ce monsieur. S'il a commis des erreurs ou des crimes, il faut le juger.
Oui, vous dites que Boni Yayi n'a jamais tenté de s'accrocher au pouvoir. On lui a reproché d'ailleurs, à ce qu'il paraît, de vouloir modifier la Constitution quand il était président. En tout cas, ce n'est pas le contentieux, vous dites. Actuellement, effectivement, il n'y a aucune décision de justice, finalement, qui a condamné Boni Yayi. Et quand vous écoutez d'ailleurs hein, la présidence, on vous dit non, on ne reproche absolument rien à l'ancien président. Le juge voulait juste l'entendre, parce qu'il aurait été cité dans des échanges entre manifestants qui ont été arrêtés d'ailleurs, hein, c'était les manifestations suite aux élections législatives. Le mouvement hein, béninois des droits humains hein, s'inquiète notamment que les personnes hein, tuées lors de ces manifestations, leur dépouille n'a toujours pas été rendue à leur famille. Voilà pour le Bénin, merci beaucoup pour Philippe. Ah oui, pour le Bénin, je voulais quand même stipuler, mon cher Philippe et aux autres auditeurs, hein, que les anciens présidents du Nigeria, Obasanjo et Koufouor du Ghana hein, demandent à travers une déclaration conjointe la libération immédiate de Boni Yayi. Ils demandent également à la CEDEAO ainsi qu'à l'Union africaine une réaction rapide et vigoureuse envers le gouvernement Talon hein, pour un prompt retour du respect des libertés et de la démocratie au Bénin avant que la situation déjà catastrophique ne s'empire. Le cas Guillaume Soro, pour continuer cette libre antenne avec Jean-Luc. Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Alors Jean-Luc, oui. Guillaume Soro n'est pas content. Hein, l'ancien leader des Forces Nouvelles a adressé une lettre de protestation et d'interpellation à l'attention du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui réunit les députés et les parlementaires hein, des pays francophones en constatant qu'il avait été déchu depuis avril 2019 de son poste de vice-président du bureau. Une éviction qui fait suite à sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. C'est bien ça?
C'est bien ça, c'est tout à fait normal, Madame Stéphanie, en fait, qu'il soit pas content, qu'on reconnaît qu'en fait, il faut attirer l'attention de Madame Louise Musikiwa, secrétaire générale de la francophonie, de prendre toutes ses responsabilités et de rappeler Monsieur François Paradis, ainsi que, en fait, qui est président actuel, qui termine son mandat en juillet. C'est que Jacques Rabal, en fait, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire, qui se sont rendus coupables, en fait, un cautionnement d'une liste quelconque qui a été produite par en fait le nouveau président de l'Assemblée nationale.
La section Côte d'Ivoire hein, de l'APF a produit une nouvelle liste avec un nouveau bureau et elle veut mettre le remplaçant de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumoro, à la place de son poste de vice-président de l'Assemblée des parlementaires francophones.
Ok, donc c'est que c'est pas possible dans la mesure où non, faut de constater que ce monsieur Amadou Soumaro Pestis, alors il foule au pied des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ivoirienne et les statuts et règlements intérieurs de l'AEF. Alors et toute pratique de courtoisie minimum admise dans cette démocratie qui possède à miner et remplacer des membres d'une session, alors aux violations des articles 138, 139. Et 140 du règlement de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, adopté en 2018, à qui stipule que les membres d'une section ne peuvent être remplacés
nous épargner
en
le...
cours.
Oui. Peut être remplacé en cours.
Voilà, ne peut être remplacé en cours des législatives. Donc, c'est une mascarade qui est en train de se perpétuer. Donc, c'est-à-dire, M. Guillaume a le droit de conduire ses auteurs en justice. Et il n'a pas encore démissionné.
Devant quelle justice il se serait alors?
Mais écoutez, en fait, pour l'instant, rien n'est dit parce que M. Guillaume Soro est toujours président, premier vice-président de l'AEF, qui a été élu au Luxembourg, voilà, comme c'est dit. Donc,
vous dites finalement, sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale ne doit pas avoir aucun impact sur son poste, son mandat en cours à l'Assemblée parlementaire francophone.
Affirmatif, aucun impact, parce qu'il n'a pas démissionné de son poste de premier vice-président de l'AFF. Et il a seulement démissionné de son poste de, sous des contraintes, en fait, du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Est-ce que c'est la guéguerre, finalement, Ouattara, Soro, qui continue?
Mais oui, c'est la guéguerre, comme vous le dites, la guéguerre qui n'a pas, en fait, l'objet d'y être, qu'il faut que l'Afrique gagne. Et M. Guillaume Soro, en juillet, serait le futur président, et il est le président, le premier vice-président actuellement, conformément aux articles, aux tests en vigueur. Quant à présent, il n'a pas encore renoncé à son poste de premier vice-président. Donc, je ne vois pas que cette mascarade, normalement, peut aboutir à quelque que ce soit. Alors, donc, pour le respect du droit et le respect de tous, Madame Louise a été informée hier, par courrier. La préfecture de police et la préfecture, normalement, et le ministère de l'Intérieur français.
Vous avez fait une manifestation devant la francophonie, c'est bien ça?
Oui, voilà. Les associations, tout ce mouvement, on fait une manifestation qui a été normalement accordée avec un rendez-vous qui a été normalement accordé. Et donc je pense que Guillaume Soro reste et restera le premier vice-président en juillet qui prend son poste de président.
Voilà. Il prendra le poste de président de l'Assemblée des parlementaires francophones en juillet prochain. Affaire à suivre. Hein. Donc on veut vous réagir. Hein. Kassoro 33 1 55 07 58 00. Souleymane, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Souleymane. Bonjour. Est-ce que Guillaume Soro est victime d'une cabale contre lui à cette assemblée
Madame Stéphanie, une cabale, elle est quand même un peu, le mot un peu quand même trop léger.
Un peu fort. Léger.
Il est victime d'une cabale léger et très, n'est-ce pas, inouïe de la part, n'est-ce pas, du régime d'Abidjan. Et avec des bras séculiers au niveau de l'APF, que je vais citer ici, M. Jacques Krabal, qui est le secrétaire général de l'APF, et M. François Paradis, que j'ai baptisé M. François L'Enfer. Madame Stéphanie, on ne peut pas piétiner, n'est-ce pas, les tests de la francophonie. Hier, nous étions devant l'OIF pour dénoncer avec force et énergie la forfaiture qui est en train de s'installer au sein de la francophonie. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Je m'explique très rapidement. J'ai pu contacter M. Jacques Krabal, avec qui j'ai beaucoup échangé sur le cas de la Côte d'Ivoire. Il reconnaît même lui-même, avec plusieurs échanges téléphoniques avec moi, qu'il y a vraiment un problème, d'où le changement, à travers le changement du bureau de la section de la Côte d'Ivoire. Et ce qui pose un problème, un sans précédent. On ne peut pas aujourd'hui changer les règles du jeu au cours du jeu. Et nous sommes sortis hier pour aller voir Madame Louise
Mujikiwabo.
Voilà, la secrétaire générale de la francophonie, afin que l'on puisse demander le respect strict des statuts.
Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu?
Au départ, avant que j'arrive pour la manifestation aux alentours de 13h, une délégation de la francophonie a demandé à recevoir 10 personnes de la manifestation. Et quand ça montait en puissance, c'est-à-dire les personnes venaient, nous étions nombreuses, ils ont donné un refus poli de recevoir la délégation. Pression étant mise, 3 personnes ont été reçues avec accusé de réception de la, comment dirais-je, de...
Qu'est-ce qui a été dit de la lettre de motion
qui sera transmise en bonne et due forme.
D'accord. Il n'y a pas eu de réaction du secrétariat général pour l'instant, alors.
Voilà, donc,
d'accord. Ils ont juste pris acte, si on comprend bien.
Ils ont pris acte, voilà, au niveau des panélistes qui sont aujourd'hui rassemblés au Maroc. Et nous voulons, n'est-ce pas, Madame Sefer, pour terminer, dire qu'il y a un deux poids deux mesures. Dans le cas du Bénin, que votre auditeur citait tout à l'heure, nous avons vu la francophonie monter au créneau et faire un communiqué pour dénoncer, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'exclusion de l'opposition au sein de l'hémicycle au niveau du Bénin. Et quand nous voyons en Côte d'Ivoire qu'il y a une crise sans précédent et que le bureau, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire n'est pas constitué et que les députés, en l'occurrence, Vox Populi, le rassemblement, le groupe parlementaire, pardon, Vox Populi, rassemblement PDCI-RDA, ont saisi l'APF sur la crise sans précédent qui se passe au sein de la Côte d'Ivoire, il y a un mutisme total. Par contre, l'on accepte, d'introduire une liste frauduleuse au sein de l'APF afin de pouvoir, n'est-ce pas, excusez-moi du terme, déglinguer.
Guillaume Soro a dit que l'Assemblée nationale ivoirienne était en crise depuis 1960. Vous êtes d'accord avec ça?
Madame Stéphanie, vous savez, l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, effectivement, est en crise depuis 1960, et vous savez que celui-même qui l'a propulsé, impulsé à travers, n'est-ce pas, la diplomatie parlementaire, s'appelle Guillaume Kibakori Soro. Et vous voyez aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, comment dirais-je, démocratique au sein de ce Parlement, où tous les postes étaient répartis d'une manière juste entre les partis d'opposition. Aujourd'hui, on retrouve, n'est-ce pas, excusez-moi du terme, de la bouillabaisse au sein de cet hémicycle qui devait être le reflet, n'est-ce pas, de la démocratie pluriel au niveau de la Côte d'Ivoire.
Merci Souleymane, merci.
J'aimerais demander ici à tous les francophones de ne pas accepter la forfaiture aujourd'hui. Cela va au-delà de la personnalité de M. Guillaume Soro, mais du respect de sa démocratie en
Afrique et dans les francophones. Merci beaucoup Souleymane, merci beaucoup. Non, je rigolais un peu, puisque effectivement on peut... s'interroger peut-être parfois sur le rôle de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, en matière de démocratie, notamment en termes d'examen des élections. Pas sûr que la francophonie soit le meilleur espace de défense de la démocratie. Alassane, bonjour. Ah.
Allô.
Allô, Alassane.
Ouais, bonjour, Madame Hodman.
Bonjour, Alassane. Vous voulez revenir sur le sale gate, comme on dit au Sénégal, donc ce dont on parlait en début de cette libre antenne, sur ces accusations, ces soupçons de malversation dans la gestion pétrolière et l'ouverture d'une enquête par le procureur. On vous écoute.
Exactement. Mais Madame Hodman,
alors, Monsieur Alassane, vous pouvez enlever votre kit main libre, s'il vous plaît. On vous entend mal de très loin.
Ah, ok.
Voilà. Les auditeurs vont se rendre compte de la différence. Allez-y, on vous écoute, Alassane.
Voilà. Je souhaiterais me rebondir un peu sur mon frère ivoirien là qui se plaignait par rapport à la démocratie en parlant de francophonie. Si c'est la francophonie qu'ils attendent pour régler leur problème de démocratie, ils sont mal barrés. Parce que la francophonie même, c'est le rassemblement des soi-disant démocrates, mais c'est le rassemblement des dictateurs africains. Ok. Je reviens sur le cas du pétrole sénégalais là. Allô, vous m'entendez ?
Oui, oui, oui. Alors, allez-y, Alassane, on vous écoute. Après, on prendra vite fait Cissé qui vous parle du Mali.
Ouais. Moi, je ne comprends pas le procureur de la République du Sénégal, le procureur Bachirou, je ne sais pas comment, Bachirou Diagne. Parce que, pour le même cas, donc, à propos du caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a été emprisonné directement. Pour le même cas, Karim Wada a été emprisonné. Pourquoi pas pour le même cas d'emprisonner, on parle de soupçons, qu'on nous arrête de, on arrête de nous parler de soupçons. Mais Ousmane Sonko l'avait écrit sur son livre que Aliou Sall avait dit qu'il allait porter plainte. Est-ce qu'il a porté plainte? Non, il n'a pas porté plainte. Mais attends, qu'on le met en prison et puis qu'on fait l'enquête, c'est ça qu'on veut.
Vous dénoncez un deux poids, deux mesures dans la justice sénégalaise, non,
Madame Hodman, nous, on a un problème avec notre justice. 99% des Sénégalais ne font pas confiance à la justice sur la magistrature de Macky Sall. Et puis, franchement, avec Macky Sall, c'est une recul de la démocratie, c'est une recul en fait. C'est le président, d'habitude, un président patriote, on n'a que Wade comme président patriote. Macky Sall fait partie des présidents les plus nuls qu'on a jamais vus dans ce pays-là.
Vous l'avez dit, mon cher Alassane, c'est votre opinion. Merci beaucoup, Alassane. Alassane qui s'inquiétait du traitement judiciaire différent, finalement, entre cette affaire et le précédent de Khalifa Sall. Le procureur qui s'appelle Serigne Bassirou Gueye n'a absolument pas cité le nom d'Aliou Sall. On termine sur le Mali avec cette nouvelle tuerie dans un village du centre du Mali avec Abdoulaye. Abdoulaye, bonjour, il nous reste quelques secondes, c'est à vous.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs. Donc moi j'aurais, excusez-moi, j'intervenais par rapport aux tueries au Mali, dans le centre. Donc malheureusement, j'ai pas pu assister à l'émission hier parce que quand j'ai téléphoné, c'était un peu plus tard. Donc moi, j'ai entendu beaucoup de compatriotes qui sont en train d'incriminer Ibeka. Je ne suis pas un supporter d'Ibeka. Moi, je suis un Malien et fier de l'être. Donc ce que moi, je veux dire à mes compatriotes et à toute l'opinion publique, quand il y en a un problème comme ça, je pense que c'est de mettre un peu d'eau dans son vin, de garder raison et d'essayer de trouver la solution ensemble au lieu d'incriminer une personne ou des personnes. Que ce soit Ibeka ou aujourd'hui Smaïla Sissé, que les supporters disent qu'ils viennent au pouvoir, c'est pas Smaïla qui prend l'arme pour aller se battre dans le nord du Mali. C'est aux Maliens eux-mêmes déjà d'être des vrais compatriotes comme on était dans le temps des Modibo Keïta et des Moussa Traoré.
Le message est passé, mon cher Sissé Abdoulaye. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette libre antenne. Merci à tous de votre participation. Continuez le débat sur le répondeur 33 1 55 07 58 05.